2014, on voulait que ça sorte un petit peu dans le cadre, enfin dans le cadre, dans l'année du centenaire, quoi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour le centenaire de 1914, il y a quand même eu une avalanche, un flot éditorial, historiographique autour de l'année 1914 et de la guerre, de la Grande Guerre. Mais il y a eu, de notre point de vue, un grand absent quand même dans ce flot historiographique, et cet absent, le mouvement ouvrier. Et sans doute symptomatique d'une époque, mais dans les années 50 ou 60 ou 70, l'étude du mouvement ouvrier vis-à-vis de la guerre était un champ d'étude en soi. Cette année, c'est assez spectaculaire, mais il n'y a rien eu sur la question, à part ce bouquin qui est un des seuls à en parler. Et il en parle du point de vue de l'avant-guerre. Est-ce que je pourrais éventuellement avoir un petit verre d'eau? Alors ce livre, si jamais vous le lisez, vous verrez qu'en fait il y a un certain nombre d'entrées possibles. On peut le lire de façon chronologique, mais on peut aussi le lire en fonction des thèmes, des centres d'intérêt qu'on a. Si par exemple vous vous intéressez aux femmes et au mouvement ouvrier, il y a un chapitre spécifique sur la question. Si vous vous intéressez aux travailleurs migrants, il y a un chapitre spécifique sur la question. Si vous vous intéressez aux coutumes ouvrières, si vous vous intéressez aux grandes histoires des grandes grèves d'avant 14, à chaque fois il y a tout un tas de récits qui sont faits de tout ça. Globalement, il y a trois logiques qui guident la construction de ce livre. Il y a trois logiques qui guident la construction de ce livre. La première logique, c'est celle de raconter la montée vers la guerre en France avant 14. Parce que c'est quelque chose qu'on a à peu près oublié, qui évidemment n'a pas été rappelé cette année, mais la France a très activement préparé la guerre. Elle a très activement préparé la guerre, et à partir notamment de 1911, hein, du coup d'Agadir, il y a une véritable entreprise de la part du gouvernement et de la presse, de la grande presse, une véritable entreprise de remilitarisation, de réarmement matériel et moral de la France en vue de la guerre qui se prépare. Il y a un véritable climat de réaction belliciste et militariste en continu en ces années-là. Et je pense que c'était important d'expliquer un petit peu ça pour comprendre aussi dans quel contexte évoluaient les militants ouvriers et révolutionnaires de l'époque. La deuxième logique qui structure ce bouquin, c'est de faire un panorama du mouvement ouvrier dans ces années 1910. Et je vous assure qu'en fait, quand on se plonge un peu dans cet univers, on découvre des choses vraiment très inattendues. Parce que c'est véritablement, enfin, on ne soupçonne plus, 100 ans après, quelle était la richesse foisonnante du mouvement ouvrier de cette époque-là. Ces syndicats, ces coopératives, ces organisations politiques, qu'elles soient anarchistes ou socialistes, les groupes culturels, les groupes de chansonniers, les ligues de ménagères, l'Union syndicale des locataires, les bourses du travail, et puis tous les journaux. Et puis tous les débats, les différentes fractions qui étaient en concurrence, en controverse, les grandes affaires aussi qui ont animé l'actualité politique de l'époque, et puis les petites luttes, les grandes luttes. Bon voilà, c'est quelque chose d'assez foisonnant et dont la diversité, et en même temps ça constitue un tout qui fait un petit peu contre-société. C'est vraiment intéressant à découvrir. Et la troisième logique qui guide la construction de ce bouquin, c'est l'histoire d'une petite organisation qui n'avait jamais été racontée, et c'est la Fédération communiste anarchiste. Jean Métron, dans son incontournable Histoire du mouvement anarchiste en France, avait consacré quelques paragraphes à cette organisation, et finalement ça reste assez énigmatique. Donc ça a été le point de départ de mon travail, d'ailleurs je voulais en savoir plus sur cette organisation, et je voulais raconter son histoire. Donc c'est chose faite. Et en fait, il y avait énormément de choses à raconter, parce que justement, elle s'inscrit dans cette époque où il s'est passé beaucoup de choses. Et de 1910, année de sa fondation, jusqu'à 1914, elle va militer avec une cadence effrénée contre la militarisation, contre la guerre, en subissant une répression très importante. Voilà. Et cette question de la lutte contre la guerre, C'est un petit peu l'angle sous lequel je vais vous présenter le livre ce soir. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'entrées possibles dans ce bouquin, mais il y a quand même une dynamique qui guide, c'est quand même cette question-là de la montée vers la guerre et de la lutte des ouvriers et des ouvriers révolutionnaires contre la guerre. Alors, je vais essayer de vous poser une problématique qui est la suivante. Tout le monde sait qu'en juillet 1914, la CGT, le mouvement ouvrier dans son ensemble, ont échoué à s'opposer à la déclaration de guerre. Ils ont échoué notamment à faire la grève générale comme ils espéraient le faire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la CGT s'est retrouvée impuissante à agir en juillet 14, alors que dans des situations analogues, où la guerre menaçait, à l'automne 1912 et à l'été 1911, elle avait au contraire réagi avec beaucoup de vigueur et beaucoup de courage. Pourquoi ? Ben, c'est ce que je vais essayer de vous raconter. Alors, on croit généralement que la CGT avait promis d'appeler à la grève générale contre la guerre. En fait, c'est pas vrai. La CGT avait une position beaucoup plus prudente, parce qu'elle était aussi consciente de ses limites, et la CGT s'est jamais engagée à appeler à la grève générale contre la guerre. En fait, en 1908, à son congrès confédéral à Marseille, elle avait adopté une résolution qui était plus équilibrée et qui disait en substance la chose suivante. La CGT, le devoir des syndicats est de faire l'instruction des travailleurs, nationalement et internationalement, de façon à ce que, au jour d'une déclaration de guerre, les travailleurs y répondent par la grève générale révolutionnaire. Donc la CGT ne se donnait pas l'obligation de décréter ou d'appeler la grève générale d'en haut, elle se donnait l'obligation de faire en sorte que les travailleurs eux-mêmes spontanément fassent la grève générale. Alors on pourrait prendre cette résolution pour quelque chose d'équivoque qui pourrait permettre par la suite à la direction confédérale de la CGT de se dédouaner de ne pas avoir appelé à la grève générale justement. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer en juillet 14. La direction confédérale n'appellera pas à la grève générale tout en se disant on ne trahit personne puisque le texte de la résolution c'est ça. On pourrait penser que cette motion donc, est équivoque, mais en même temps, elle convenait un peu à tout le monde au sein de la CGT, aussi bien à la direction confédérale qu'à la gauche de la CGT. La gauche, c'est globalement les syndicats qui étaient animés par les anarchistes et par ceux que j'appelle les syndicalistes révolutionnaires ultra. Donc ils ne sont pas anarchistes, mais en quasi-osmose. Ça leur convenait tout à fait parce qu'en fait, la gauche de la CGT savait pertinemment qu'au jour d'une déclaration de guerre, ou à la veille d'une déclaration de guerre, la première chose que ferait le gouvernement français serait de décapiter l'organisation syndicale et de mettre en prison toute la direction confédérale et les dirigeants des fédérations. Il ne fallait donc pas habituer les travailleurs à attendre un ordre venu d'en haut. Effectivement, il fallait habituer les travailleurs à agir par eux-mêmes. Mais après, comment faisait-on l'instruction des travailleurs par rapport à cette question? Comment est-ce qu'on encourageait les gens? Comment est-ce qu'on faisait la propagande concrètement, antimilitariste et antipatriote? Eh bien, je vais revenir un tout petit peu en arrière, au tout début du XXe siècle, parce que c'est à ce moment-là que se jouent les choses sur le début d'une véritable propagande antimilitariste, antipatriote dans le mouvement ouvrier. Le concept, l'idée de grève générale contre la guerre, il vient d'où? Il vient de la Première Internationale. 1868, lors d'un de ces congrès, c'est le mot d'ordre qui est retenu. En cas de déclaration de guerre entre différents États, le devoir des travailleurs est de s'y opposer en croisant les bras. Bon, cette résolution avait été impuissante à s'opposer à la guerre franco-allemande de 70. Mais ce mot d'ordre était resté gravé un peu dans le marbre, et dans les décennies suivantes, dans les années 1880-90, dans les congrès ouvriers qui reconstruisent petit à petit le mouvement ouvrier français, on invoque ce mot d'ordre, cette résolution, de façon davantage rituelle qu'autre chose, de façon davantage incantatoire qu'autre chose. Mais, au tournant du XXe siècle, on va de nouveau se saisir de ce mot d'ordre, mais avec davantage le sentiment de l'urgence à réussir à le mettre en œuvre. Parce qu'au tournant du XXe siècle, il y a des rivalités coloniales entre la France et la Grande-Bretagne, le Soudan, le Fashoda, qui, à un moment donné, peuvent laisser penser qu'une guerre peut éclater entre la France et la Grande-Bretagne. À ce moment-là, on est en 1900-1901, et le mouvement ouvrier français, les syndicats français, donc, Montgomery est déjà en phase de reconstruction avancée, puisque la CGT a été fondée en 1895, la Fédération des Bourses du Travail dans les mêmes eaux, un an ou deux avant, et l'ensemble des syndicats français prennent contact avec les trade unions britanniques et organisent une grande démonstration ouvrière conjointe contre la guerre. Donc il y a une cinquantaine de délégués français qui franchissent la Manche, qui sont délégués par la CGT, par la Fédération des Bourses du Travail, qui sont aussi bien révolutionnaires que réformistes, et ils montent à Londres pour faire un énorme rassemblement, meeting, avec les trade unions britanniques, où solennellement, on proclame que, pour s'opposer à la guerre, les travailleurs doivent faire la grève générale. Donc ce mot d'ordre, à ce moment-là, en 1901, revient véritablement et remis sur la table dans le débat public comme quelque chose dont on va vouloir se saisir réellement, et non plus seulement de façon incantatoire. À la même époque, en 1901, il y a un événement important, c'est l'ultime congrès de la Fédération des Bourses du Travail. C'est l'ultime congrès avant qu'elle fusionne dans la CGT l'année suivante. Et à ce congrès, eh bien, la Fédération des Bourses du Travail décide de se lancer concrètement dans la propagande antimilitariste et antipatriote. À l'époque, on ne dit pas internationaliste. C'est un terme qui sera utilisé dans l'entre-deux-guerres. À l'époque, on dit antipatriote. Il s'agit donc de faire de la propagande parmi la masse ouvrière sur le fait que les travailleurs n'ont pas de patrie, quoi, en substance, et de réussir à faire pénétrer cette idée. Donc, le secrétaire de la Fédération des Bourses est mandaté pour rédiger une brochure, fascicule, là-dessus. Le secrétaire de la Fédération des Bourses, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage haut en couleur, qui s'appelle Georges Yvetot, qui est un personnage dont je parle beaucoup dans le livre, parce que c'est une grande gueule, hein, c'est un anarchiste qui ne met pas son drapeau noir dans sa poche. C'était l'ancien bras droit de Fernand Pelloutier à la Fédération des Bourses. Et par la suite, dans la CGT, il occupera un poste assez important et il sera vu et vécu comme le champion du courant anarchiste au sein de la CGT. Donc en 1901, Georges Yvetot est chargé de rédiger cette brochure qui va s'appeler le Nouveau Manuel du Soldat. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce Nouveau Manuel du Soldat? Eh bien, on trouve tous les conseils qu'on va donner aux jeunes syndiqués quand ils partent à la caserne en matière de comportement à avoir. Alors, cette brochure, en fait, quand on la lit, on s'aperçoit que c'est vraiment la matrice de tous les discours et de toute la phraséologie antimilitariste, antipatriote qu'on va retrouver pour les 15 années suivantes dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement anarchiste. On y trouve toutes les formules, donc l'armée école du crime, la caserne école de la soumission, les travailleurs n'ont pas de patrie, contre la religion patriotique, contre la fiction patriotique, on dénonce les bagnes militaires, hein, d'Iribi, on rappelle que les travailleurs n'ont pas de patrie, etc. Et aux jeunes syndiqués qu'on appelle à la caserne, on donne ce conseil. Lorsque tu es appelé sous les drapeaux, tu as deux choix. Soit tu refuses d'entrer dans l'armée bourgeoise et tu désertes. Si tu désertes, ça veut dire que tu passes la frontière, tu vas en Suisse ou en Belgique ou en Espagne, et là, tu recevras l'aide des syndicats amis de l'autre côté de la frontière. Soit tu réponds à l'appel, tu vas à la caserne, mais là, tu fais de la propagande antimilitariste à la caserne et tu t'efforces de convaincre tes camarades de chambrée de les rallier à notre cause et de les convaincre qu'il ne faut pas briser les grèves. Il ne faut pas tirer sur ses frères et sœurs ouvriers, y compris de l'autre côté de la frontière. Voilà. C'est principalement d'ailleurs cette seconde option qui sera utilisée, parce que la désertion posait un certain nombre de problèmes et les militants ouvriers eux-mêmes n'osaient pas trop souvent engager les jeunes à déserter. Beaucoup de déserteurs en fait se retrouvaient dans la misère à l'étranger et finissaient par rentrer la queue entre les pattes en France. Et à faire leur service. Donc c'était une stratégie qui marchait pas toujours très bien. Mais en tout cas, ce nouveau manuel du soldat sort avec toutes ces formules incendiaires, avec toutes ces recommandations qui relèvent de la trahison nationale. Et évidemment, il est aussitôt poursuivi en justice. Georges Yvetot se retrouve dans le box, pas tout seul, il se retrouve avec 40 camarades, puisqu'il y a 40 militants de la Fédération des Bourses qui ont réclamé d'être inculpés également, arguant que le nouveau manuel était une œuvre collective, ce qui était faux, et il se retrouve en une quarantaine dans le box. Et les débats tournent mal, en fait, pour l'État, ils tournent à la confusion du ministère public, et coup de peau, le jury populaire acquitte Yvetot et ses camarades. et le parquet ne fait pas appel. Et du coup, cette petite brochure incendiaire, le nouveau manuel du soldat, se trouve bénéficier d'une forme d'amnistie, d'immunité judiciaire, qui va lui permettre d'être réédité, et réédité, et réédité encore, en 1914. J'ai compté au moins 7 rééditions, et au moins 215 000 exemplaires imprimés et distribués dans le public. Ce qui est absolument considérable, et comme je vous le disais, ce nouveau manuel va fournir le cadre, la matrice de tous les discours et de toute la phraséologie du mouvement ouvrier de l'époque sur le militarisme et sur la guerre. Troisième événement qui se situe un peu avant, en septembre 1900, la CGT, à son congrès confédéral, décide de se doter d'une institution qui s'appelle le Sou du Soldat. Alors, le Sou du Soldat, c'est quoi ? C'est une institution que les syndicats créent sur la base du volontariat. Ça consiste en une cotisation spéciale qui va permettre, quand on a un jeune syndiqué qui part à la caserne, au régiment, de lui verser un secours financier régulier. Ça permet de maintenir le lien du jeune avec son organisation de classe. Et puis souvent, à cet obole, en fait, on joint une lettre circulaire qui donne les recommandations habituelles. Refuse de briser les grèves, refuse de tirer sur tes frères et sœurs, etc. Par la suite, le Sou du Soldat, au début, l'État n'en fait pas grand cas, mais par la suite, dans la période que j'étudie dans le livre, l'État va le réprimer très fortement et s'en servir pour faire des procès en série à la CGT. J'y reviendrai. Et donc, il y a donc toutes ces choses-là qui se mettent en place en 1900-1901. Et il y a un moment clé dans l'année, puisque donc la CGT, les groupes du travail, vont désormais faire ce travail de propagande antimilitariste et antipatriote de façon assez régulière. Il y a un moment clé dans l'année, c'est l'appel de la classe. Alors l'appel de la classe, c'est quoi ? C'est chaque année en octobre, quand les jeunes gens de 20 ans sont appelés sous les drapeaux pour faire leur service militaire, qui à l'époque dure 3 ans. Et cela donne en général lieu à des réjouissances dans tous les villages de France, parce que c'est un rite de passage à l'âge adulte. Voilà, donc généralement les jeunes gens de 20 ans sont tout contents d'avoir leur matricule et font la fête, boivent. Bon, Gaston Couté, le poète Gaston Couté a fait un poème là-dessus, sur les conscrits, où il se moque en fait des jeunes gens qui font la fête, se saoulent, se battent entre eux, vomissent, tout ça, en rêvant qu'ils vont reprendre l'Alsace et la Lorraine. Il tourne en dérision tout cela, et donc à cette période-là de l'appel de la classe, systématiquement, la CGT, enfin les syndicats, les anarchistes, mais même la gauche du Parti Socialiste font des meetings antimilitaristes où sont convoqués les jeunes appelés et on leur distille encore, on leur distribue les discours sur le fait que pas trahir, souviens-toi que tu restes un prolétaire sous l'uniforme, etc. Voilà à peu près le cadre de cette propagande antimilitariste. Alors je vais sauter directement à une étape importante, parce que c'est le premier coup de semonce de la guerre qui s'annonce. C'est en 1905, et c'est le coup de Tanger. Le coup de Tanger, c'est au Maroc, le Kaiser Guillaume II débarque à Tanger, il y a une rivalité franco-allemande très importante pour le contrôle du Maroc. Et au moment du coup de Tanger, la tension monte extrêmement vite entre la France et l'Allemagne, et tout le monde comprend bien que la rivalité au Maroc peut conduire à une guerre franco-allemande, et donc, mécaniquement, à une guerre européenne. Donc à ce moment-là, en 1905, le secrétaire de la CGT, Victor Griffel, saute dans le train de Berlin et file voir ses homologues allemands à Berlin, et leur dit, en substance, qu'il est urgent d'organiser des manifestations conjointes contre la guerre entre les syndicats allemands et français, de la même façon qu'on l'a fait 4 ans auparavant à Londres. Et là, ils se retrouvent confrontés à un mur, puisque les dirigeants de la centrale social-démocrate allemande lui répondent en substance « Mais écoutez, on ne comprend pas ce que vous faites ici, on ne comprend pas de quoi vous nous parlez. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble, il faudra qu'au préalable, notre parti socialiste se mette d'accord avec votre parti socialiste. Et là, à ce moment-là, nous, on pourra marcher et faire des choses avec vous. » Donc, Victor Griffel a beau leur expliquer que la CGT est une organisation syndicaliste révolutionnaire, qu'elle n'a aucun lien avec le PS, elle est même hostile au PS, qu'elle agit en toute indépendance, les Allemands ne veulent rien savoir. Et Victor Griffel rentre à Paris avec une certaine amertume, et la conviction que ça ne va pas être facile d'appliquer la stratégie de grève générale contre la guerre dans la mesure où il n'y a pas vraiment de répondant de l'autre côté du Rhin. la CGT a cette conviction en tête dès 1905. Je saute à l'étape suivante. Agadir, à l'été 1911, de nouveau, une crise franco-allemande très violente sur la question du contrôle du Maroc. Là, la CGT, tenant compte de l'expérience décevante de 1905, va mettre de l'eau dans son vin et va accepter, pour la première fois, de coopérer avec le PS pour pouvoir, en fait, faire quelque chose de conjoint avec les Allemands. Donc la CGT déjà organise un très grand rassemblement à Paris 19e sur un terrain vague qui s'appelle l'Aéroparc. Et c'est un des premiers grands rassemblements contre la guerre, il y en aura bien d'autres par la suite. Mais la CGT donc appelle tous les travailleurs à se rassembler et donc fait une sorte de grand raout. Il y a 60 000 personnes qui y participent et donc il y a tout mouvement ouvrier dans sa diversité, c'est-à-dire les syndicats, les sections socialistes, la Ligue des ménagères, les locataires, la Fédération communiste anarchiste est là aussi avec son drapeau noir, et il y a des discours, bon voilà, grand raout. Puis il y a également un grand meeting, comme on savait en faire à l'époque, c'est-à-dire un meeting avec 10 000 ou 15 000 personnes, dans des grandes salles qui existaient à Paris. Et là, on a à la tribune tout le gratin de la CGT, Léon Jouot, secrétaire de la CGT, Georges Yvetot, Alphonse Mérem, voilà. Et puis, il y a également des représentants des syndicats allemands qui sont là, qui prennent la parole. Et puis, il y a un député socialiste au Reichstag. Et puis, il y a, pour la première fois, un député socialiste français qui donc partage la tribune avec des dirigeants de la CGT. D'ailleurs, il y a même un Bourderon, un des orateurs, Bourderon, c'est le militant CGT qui préside le meeting, et il est même obligé de quasiment s'excuser auprès du public et d'expliquer qu'en fait, pourquoi il y a un député socialiste. Voilà, parce que c'était la première fois que ça arrivait que la CGT accepte ça. Et puis il y a en plus d'autres représentants de syndicats étrangers qui sont venus. Il y a José Negret, un des fondateurs de la CNT espagnole, qui est là. Et puis il y a un représentant de la centrale syndicaliste révolutionnaire néerlandaise, la NAS, qui s'appelle Cotec, qui prend également la parole. Suite à quoi, les syndicalistes français prennent le train de Berlin, et là-bas, de nouveau, énorme meeting, avec 15 000 personnes, avec des discours, voilà, on fait une grande démonstration contre la guerre. Et puis, il y a également une délégation syndicaliste française qui part en Espagne, pour, pareil, des grandes démonstrations contre la guerre. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ce voyage de la délégation française reflète déjà un peu la géographie politique de l'Espagne à ce moment-là. Parce que quand les délégués français arrivent à Madrid, ils font un énorme meeting avec 10 000 personnes organisé par le Parti Socialiste. Et quand ils vont à Barcelone, c'est un énorme meeting avec 15 000 personnes organisé par la CNT et les anarchistes. Il y a déjà cette dichotomie qui existe. Donc voilà, été 1911, énorme mobilisation contre la guerre en France, en Allemagne, en Espagne aussi. Et puis la crise diplomatique se dégonfle. Voilà, la situation ne vire pas à la guerre ouverte. La situation diplomatique se dégonfle à partir de septembre, octobre. Et puis elle se résoudra en novembre par une solution diplomatique. La France sort vainqueur du bras de fer, elle aura le contrôle du Maroc, et l'Allemagne a un lot de consolation, on lui cède des terres au Congo. Voilà, c'est un troc inter-impérialiste pour sauver la paix. Mais l'alerte a été chaude. Et donc, en octobre 1911, il se passe un événement assez important pour la CGT. La CGT tient une conférence nationale pour reparler de tout ça. Une conférence nationale, c'est pas comme un congrès, c'est quelque chose de plus restreint, où c'est les délégués des fédérations professionnelles et des bourses du travail et des unions locales qui se réunissent, à peu près 50-60 personnes. Ils se retrouvent à Paris, et parmi les sujets traités, il y a cette question de la guerre, et l'opposition à la guerre. Et Léon Jouot, à ce moment-là, demande, les yeux dans les yeux, à l'ensemble des délégués présents, à l'ensemble des représentants de fédérations, je leur demande les yeux dans les yeux, quelle est aujourd'hui notre capacité réelle à appliquer, à mettre en œuvre une grève générale contre la guerre si de nouveau la situation se présente. Et là, à ce moment-là, l'ensemble des délégués présents regardent ces godasses et doit bien admettre qu'ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils appellent à la grève générale, globalement, dans leur corporation, ils ne sont pas suivis. Il y a un seul délégué qui proteste du contraire, c'est le délégué des mineurs. C'est d'ailleurs un peu paradoxal, puisque les mineurs sont une fédération réformiste, mais il se trouve que sur la question de la guerre, ils jouent le jeu et ils adhèrent à la stratégie de grève générale. Et donc le délégué des mineurs dit, eh bien, chez nous, chez les mineurs, nous pensons avoir fait suffisamment de travail, et nous pensons que sur ce mot d'ordre, nous serons suivis. Donc, octobre 1911, la CGT s'est avouée à elle-même, les gens savent qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, et elle n'a pas les moyens d'appeler à la grève générale contre la guerre. Elle ne sera pas suivie. À ce moment-là, on se retrouve face à un choix. Soit on laisse tomber, on se dit, bon, bah, finalement, cette stratégie est inapplicable, ce sont des enfantillages, on passe à autre chose. On rejoint la stratégie du PS, par exemple, hein, qui a sa propre stratégie d'opposition à la guerre, qui est celle de l'arbitrage international. Hein, voilà, le PS, enfin, Jaurès imaginait qu'on pouvait trancher les différents interimpérialistes en faisant appel à un arbitrage extérieur. Donc, soit on adhère à ça, soit on persévère sur la stratégie de grève générale. C'est le choix que va faire la CGT. Il persévère, mais du coup, il se pose des questions. Il cherche à améliorer ce qu'ils font. Donc à ce moment-là, il y a pas mal de débats au sein de l'organisation. La section des bourses du travail, donc qui est dirigée par Georges Giffetot, envoie une lettre circulaire à toutes les bourses du travail pour les encourager à redoubler d'activité dans la propagande antimilitariste et sur la question de la grève générale. Et puis on débat beaucoup de cette question. Et il y a un observateur assez remarquable que je cite beaucoup dans le livre. Un observateur du monde syndical qui s'appelle Émile Pouget. Émile Pouget, il est assez connu pour avoir été l'animateur de l'hebdomadaire anarchiste Père Pénard dans les années 1890, et puis pour avoir été l'un des pères du syndicalisme révolutionnaire français. En 1911, Émile Pouget, il est retiré des affaires, mais il tient une chronique syndicale dans le plus important hebdomadaire d'extrême gauche du moment, qui est La Guerre sociale. Donc il tient cette chronique syndicale et il la tient très bien. Généralement, il fait des analyses intéressantes, sans langue de bois. Et là, en octobre 1911, ou novembre, il pose la question, donc, où en est aujourd'hui l'idée de grève générale au sein de la CGT? Le grève généralisme a structuré, dans les années 1890, a structuré la construction du mouvement ouvrier français. Il pose la question, où en est-on 20 ans plus tard, quoi, en 1911? Et il fait le constat que ce n'est plus vraiment l'idée motrice. Hein. C'est-à-dire qu'il y a normalement au sein de la CGT un comité élu, qui s'appelle le comité de la grève générale, dont la mission est exclusivement de faire la propagande de cette idée, du concept de grève générale. Et ce comité s'appuie normalement sur des sous-comités existants entre les bourses du travail. Eh bien, en 1911, ce comité est moribond, et la plupart des sous-sections du comité de la grève générale n'existent que sur le papier. Pouget fait ce constat. La grève générale n'est plus une idée motrice dans l'action ouvrière en 1911 en France. Par contre, ce qui marche très bien, et qui va marcher de mieux en mieux, en fait, c'est l'antimilitarisme. Ça, il le constate, et ce constat est corroboré par des rapports de police. En 1911, il y a des rapports de police qui évaluent l'activité antimilitariste, antipatriote en France, et qui révèle que 60% des bourses du travail, sur à peu près 150 recensés, 60% des bourses du travail font de la propagande antimilitariste constante, effectivement, régulièrement. Donc, l'activité antimilitariste, elle, par contre, est réellement menée par les syndicats, et elle va l'être de plus en plus, en fait, dans les années suivantes. La CGT poursuit donc son travail. Je passe à l'étape suivante, qui est décisive. Parce que là, on arrive en automne 1912. Et c'est la guerre des Balkans. C'est un engrenage, c'est un morceau d'engrenage vraiment décisif dans la guerre de 14, hein, vers la guerre de 14. Pour vous résumer un peu l'engrenage d'ailleurs, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez le coup d'Agadir en 1911. À ce moment-là, donc bras de fer entre la France et l'Allemagne. La France en sort vainqueur. Dans les semaines qui suivent, parce qu'il y avait un deal en fait entre Paris et Rome, une entente secrète. La France avait dit à l'Italie, vous nous laissez les mains libres au Maroc, vous ne soutenez pas l'Allemagne, et on vous laisse les mains libres en Libye. Donc dans les semaines qui suivent, l'Italie attaque la Libye, qui appartient à l'Empire ottoman. l'Empire ottoman est battu, la Libye tombe sous contrôle italien. Ce que voyons, les États balkaniques, Serbie, Bulgarie, Grèce, Monténégro, se disent l'Empire ottoman est impuissant, c'est le moment ou jamais de l'attaquer pour s'emparer de la Macédoine. À ce moment-là, on est en octobre 1912. Les États balkaniques, qui en réalité sont téléguidés par la Russie, attaquent l'Empire ottoman, le battent avec une rapidité qui surprend toute l'Europe et occupent la Macédoine. À ce moment-là, début, on est fin 1912, l'Empire allemand constate que sa situation devient précaire en Europe, il est isolé parce que son allié ottoman est en miettes. Son allié austro-hongrois apparaît comme le nouvel homme malade de l'Europe, très affaibli dans les Balkans et affaibli dans sa composante slave. Et donc l'Empire allemand se lance, pour des raisons de protection, dans une course à l'armement et il augmente son armée de caserne de 180 000 hommes. Ce que voyons, la France, à son tour, rentre dans la course à l'armement et va augmenter son armée de caserne de 160 000 hommes. Et là, à ce moment-là, on est en août 1913. Et on s'avance de cette façon-là. Vous voyez l'engrenage depuis Agadir qui va nous mener vers la guerre de 14. Mais donc revenons en octobre 1912. La guerre des Balkans éclate et l'Empire ottoman est battu à pleine couture. Il y a un moment en novembre 1912 où la tension devient très forte dans les Balkans et où la Russie et l'Autriche-Hongrie menacent d'intervenir directement dans le conflit. Si la Russie et l'Autriche entrent en guerre, en fait elles entreront en guerre l'une contre l'autre, si elles entrent en guerre, par le jeu des alliances, mécaniquement, la France et l'Allemagne entreront en guerre, et peut-être la Grande-Bretagne. Et ça, tout le monde le sait. Donc en novembre 1912, le mouvement ouvrier européen, au complet, se soulève contre la guerre, et il y a de nouveau des énormes manifestations, mobilisations, dans toutes les grandes villes d'Europe, Paris, Vienne, Berlin, Rome, un peu partout. Et puis, l'international socialiste décide d'organiser un événement spectaculaire. Il décide d'organiser un grand congrès international socialiste contre la guerre. Ce congrès va se tenir à Bâle, une petite ville de Suisse, près de la frontière avec l'Allemagne et près de la frontière avec la France. Et à Bâle, il va y avoir tous les partis de l'international socialiste, mais également toutes les centrales social-démocrates, les centrales syndicales social-démocrates, qui vont y participer. Aragon a raconté d'ailleurs un peu dans son roman Les cloches de Bâle, il a consacré quelques pages à ce congrès de Bâle qui va être une sorte de grande kermesse pacifiste qui va se terminer d'ailleurs sous les voûtes de la cathédrale de Bâle. Quoi. C'est un peu surprenant comme image, mais l'international socialiste fait des grands meetings dans la cathédrale de Bâle. Il y a des pressions très fortes qui s'exercent sur la CGT pour qu'elle participe au congrès de Bâle. Mais la CGT refuse. Encore une fois, elle refuse, en tant qu'organisation syndicaliste révolutionnaire, de passer sous les fourches codines de la social-démocratie. Elle refuse de participer au congrès de Bâle. Et non seulement elle refuse, mais elle prétend faire mieux. Elle va organiser son propre congrès confédéral, en concurrence, les mêmes jours, 24-25 novembre 1912, à Paris. Elle organise son propre congrès. Et elle dit, nous, on ne va pas se contenter de faire des grands discours platoniques contre la guerre. Nous, on va mettre la classe ouvrière en action contre la guerre. Et elle convoque ce congrès confédéral extraordinaire à Paris dans le but de proclamer une grève générale préventive. Alors je reviens un tout petit peu sur ce congrès confédéral extraordinaire parce que il en dit long sur l'habileté stratégique des dirigeants de la CGT, enfin des dirigeants révolutionnaires de la CGT à ce moment-là. La CGT, elle avait déjà, dans le passé, essayé plusieurs fois d'appeler à la grève générale, ça n'avait jamais marché. Parce qu'en général, c'était le comité confédéral, c'est-à-dire uniquement la réunion des fédérations, des dirigeants de fédérations, qui avaient appelé à la grève générale, grève décrétée d'en haut, la base n'avait pas suivi généralement, et ça avait été un échec. Donc, et puis il y avait un autre problème, c'est qu'au comité confédéral, vous aviez pas mal aussi de fédérations réformistes, qui ne voulaient pas entendre parler de cette histoire de grève générale. Et parmi elles, des fédérations décisives, notamment la fédération des cheminots. La fédération des cheminots est dirigée par des réformistes, bien qu'elle ait en son sein une forte minorité révolutionnaire, quasiment 40 ou 50%. Donc, il y a pour les dirigeants révolutionnaires de la CGT un enjeu à faire ce comité confédéral, c'est qu'en fait, on va d'une part contourner les directions réformistes des fédérations, et puis d'autre part, on va mettre la décision directement entre les mains des syndicats et entre les mains de la base. Voilà. On va contourner les directions réformistes et inciter les syndicats à prendre le sous en main eux-mêmes. Et c'est effectivement ce qui va se passer. C'est effectivement ce qui va se passer en convoquant ce comité, enfin ce congrès confédéral extraordinaire, dont on sait que le thème va être la lutte contre la guerre et la grève générale préventive, hein, puisque c'est une idée qui est dans l'air dans les jours qui précèdent, on est quasiment sûr que les gens qui vont monter, les délégués qui vont monter des syndicats de toute la France, ça va être des gens envoyés par les syndicats les plus combatifs, les plus déterminés, les plus révolutionnaires, et donc qu'on va sans doute réussir en fait, effectivement à mettre en application cette histoire-là. Et le congrès confédéral extraordinaire est un succès. Il y a plus de monde encore, plus de délégués qu'au congrès confédéral ordinaire qui s'est tenu 2 mois avant. Et le congrès se tient à la Bellevilloise, hein, qui est une coopérative ouvrière assez connue à Paris 20e. La salle est trop petite pour contenir tout le monde, les gens sont debout, il y a une ambiance assez fiévreuse. Il y a quelques délégués réformistes qui essayent de s'opposer à la grève générale en disant que c'est du gauchisme en substance, mais ils ne sont pas écoutés, ils font même face à une salle assez hostile. Il y a une véritable soif d'action. Donc la grève générale est votée par acclamation. Et tous les militants donc, rentrent après dans leur contrée, dans leur province, dans leur ville, pour commencer à préparer cette grève générale qui doit se faire 3 semaines plus tard. Ils ont 3 semaines devant eux hein, pour réussir. La grève générale doit se tenir le 16 décembre 1912. Pourquoi le 16 décembre? Parce que c'est un lundi. Pourquoi un lundi? Ça, c'est une petite finesse syndicaliste. C'est parce que le lundi, traditionnellement, l'absentéisme est toujours plus fort sur les chantiers et dans les usines à cause de l'alcoolisme du dimanche. On appelait ça faire la Saint-Lundi. Donc, si vous faisiez la grève générale lundi, vous augmentiez vos chances de faire un score. Voilà. Donc, les militants rentrent chez eux et commencent à préparer la grève générale. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'ils le font dans un contexte extrêmement hostile, parce que la guerre est à nos portes. La guerre peut éclater d'une semaine à l'autre. Donc, évidemment, toute la presse dénonce cette entreprise, le gouvernement leur met des bâtons dans les roues, donc il y a des perquisitions dans le monde du travail, des militants qui sont arrêtés, militants qui sont emprisonnés pour des discours jugés antipatriotes, il y a même des maires socialistes qui sont démis de leur pouvoir de police par le préfet parce qu'on juge qu'ils outrepassent leurs prérogatives, et donc il y a cette ambiance extrêmement hostile. Pour dire d'ailleurs le sentiment de proximité de la guerre qui existe à ce moment-là en France, dans les coins les plus reculés, il y a un épisode qui survient pendant ces 3 semaines de préparation, qui est l'épisode de Haracourt. Haracourt, c'est un petit village en Lorraine, pas très loin de la frontière avec l'Allemagne. Et à Haracourt, un beau jour, suite à une erreur du receveur des postes, tous les paysans du village reçoivent leur ordre de mobilisation. Comme si la guerre avait éclaté. Et là, que font les paysans? Est-ce qu'ils grognent? Est-ce qu'ils s'insoumettent? Est-ce qu'ils traînent les pieds? Eh bien, pas du tout. Les paysans sonnent le tocsin et ils partent tous à la caserne. Donc, la presse monte en épingle, évidemment, cette histoire et s'en sert pour montrer, pour dire, voyez, c'est bien la preuve que les antimilitaristes ne pèsent rien, les antipatriotes ne sont pas écoutés, que les vrais Français sont les vrais patriotes et qui défendront leur pays, etc. La presse ouvrière et révolutionnaire est un peu bousculée par cette histoire. Elle répond, elle rétorque, c'est du bluff, c'est une légende. Bon, mais ça dit un petit peu la pression morale qui pèse hein, sur les épaules des militants qui préparent la grève. Et puis, pour ajouter encore au sentiment, enfin à la difficulté qu'ils ont, tous les militants de l'époque ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que tous savent à cette date-là qu'il existe en France des listes noires de militants qui doivent être arrêtés le jour d'une mobilisation ou la veille d'une mobilisation générale, qui doivent être arrêtés pour être mis en prison ou en camp de concentration, puisque ça existait à l'époque. En 1913, l'armée française en construira 2 en vue d'accueillir tous les gens suspects d'espionnage ou de sabotage de la mobilisation. Construira un camp de concentration comme ça dans le Morbihan et un autre dans les Charentes, il me semble. Et tous les militants de l'époque savent ça. Hein. Ces listes noires sont connues sous le nom de carnet B. Alors, le carnet B, il y a eu une étude qui a été consacrée, carnet B, par Jacques Becker, il y a une quarantaine d'années. Et quelques années après 1912, hein, enfin en 1918 exactement, on saura que En 1914, il y avait 1771 noms inscrits sur le carnet B. Hein, carnet B tenu à jour par chaque préfet dans chaque département. Mais, en 1912, les militants pensent qu'il y en a bien plus. Hein, le carnet B, qui était un truc secret, avait été révélé par une maladresse, par accident, lors d'un procès. La presse d'extrême-gauche, qu'est-ce que c'est que cette histoire de carnet B, avait enquêté et avait découvert une photo rose. Et l'Humanité avait publié une estimation à 15 000 noms. Eux, ils pensaient qu'il y avait 15 000 personnes inscrites dans le carnet B. Donc tous les militants de l'époque savent que dès lors qu'on est un tout petit peu en vue, qu'on est un tout petit peu audacieux, on risque d'être inscrit sur le carnet B. Dans le carnet B, il y avait à 95% des syndicalistes et des anarchistes, et à peu près tous les personnages qu'on retrouve dans mon livre étaient au carnet B. Donc les militants, en décembre 1912, il y a ce poids-là sur leurs épaules. Hein. Il y a ce poids moral et ce poids de la répression qu'on leur inflige et qu'on menace de leur infliger. Malgré tout, ils font le travail avec beaucoup de courage et on arrive au 16 décembre 1912 où a lieu la fameuse grève générale du 16 décembre. Et le soir de la grève générale, on compte la participation. Alors comment on compte la participation d'ailleurs, à cette époque-là? On la compte avec une institution ouvrière qui s'est perdue, enfin qui a été réinventée d'ailleurs lors des grèves de sans-papiers en 2008-2009, c'est la carte de grève. Alors la carte de grève c'est quoi? C'est donc une carte cartonnée qu'on édite lors des grands mouvements, par exemple pour le 1er mai, pour chaque 1er mai, qu'on édite par exemple pour la grève générale du bâtiment parisien en 1911, ou qu'on édite pour donc, la grève générale contre la guerre de décembre 1912. Donc c'est une petite carte. Si vous allez sur le blog qui est lié au livre, vous verrez, il y a une reproduction de cette carte. Il y a des slogans, les travailleurs n'ont pas de patrie, grève générale du 1er décembre, enfin, du 7 décembre 1912. Et ça permet, donc, les grévistes, tous les grévistes, se rendent à la Bourse du Travail, ils retirent leur carte de grève, ils la signent, elle est tamponnée sur le syndicat, par le syndicat, et ça permet, à la fin de la journée, de dénombrer. Mais en réalité, cette carte de grève n'a pas qu'un rôle de dénombrement des grévistes. Elle a un autre rôle, qui est en fait un rôle de pression morale sur les jaunes. Par exemple, dans une corporation très syndiquée, et où la discipline de classe est très forte, comme le bâtiment, il peut tout à fait advenir que si, par exemple, vous êtes un ouvrier, que vous arrivez un jour sur un chantier pour trouver de l'embauche, vous pouvez avoir 3-4 militants qui viennent vous voir, de la CGT, et qui disent « Ah, salut, bienvenue, voilà. Ah, au fait, est-ce que tu as ta carte de grève du 1er mai ? Ou est-ce que tu as ta carte de grève du 16 décembre 1912 ?» Et là, si le type répond « Ah, ben, en fait, non, pas trop », il peut tout à fait se voir répondre « Eh ben, écoute, on est désolé, mais il va falloir que tu ailles travailler ailleurs, parce que tu vois, nous, ici, on est des ouvriers conscients, on ne travaille pas avec les jaunes. » Voilà. Pour vous dire l'ambiance qui pouvait régner à ce moment-là sur les chantiers du bâtiment à l'époque de la splendeur de la Fédération du bâtiment de la CGT. En tout cas, à la fin de la journée du 16 décembre, on compte les cartes, on compte un peu les grévistes et le résultat est mitigé. C'est pas un bide, mais c'est pas non plus un triomphe, loin de là. Et bon, un journal de l'époque, un journal de la presse bourgeoise, hein, Le Matin, par exemple, qui pour le coup rend compte honnêtement de la journée, dit « ça a été un peu comme un 1er mai amélioré en termes de participation ». Toute la presse crie à l'échec total, hein, bien sûr, un four noir, bon voilà, mais les syndicalistes, dans la presse ouvrière, s'efforcent de tirer des conclusions qui ne sont pas triomphalistes, évidemment, mais qui ne sont pas non plus trop pessimistes, parce qu'il ne faut pas décourager les militants, bien évidemment. Celui qui fait l'analyse la plus intéressante, encore lui, c'est Émile Pouget. Émile Pouget, donc dans la guerre sociale, il fait une analyse région par région, corporation par corporation, des points faibles et des points forts de la grève générale. Bon, sans surprise, la grève générale a marché dans les bastions traditionnels, c'est-à-dire bon, la région parisienne, la région lyonnaise, qui a connu la plus grande manifestation ouvrière qu'elle n'avait jamais connue. La Fédération du bâtiment a fait grève, évidemment, parce que c'est la Fédération du bâtiment, à l'époque, c'était vraiment la fédération la plus puissante de la CGT, la plus révolutionnaire, c'était l'avant-garde, hein, du prolétariat, donc la grève a été vraiment générale dans le bâtiment. Mais, et puis après, dans certaines régions industrielles où la société est bien implantée, dans les cuirs et peaux en Normandie, chez les ouvriers agricoles dans le Cher et dans certaines régions du sud de la France, voilà. Il établit un petit peu tout ça, et puis il dit qu'il y a également des bonnes surprises. La bonne surprise, c'est que un département comme les Ardennes, qui est un département frontalier, donc contradictoirement patriote et où on a peur des Allemands, les Ardennes ont beaucoup fait grève. Et c'est un département très gréviste. Et la meilleure surprise, c'est les mineurs. Les mineurs ont vraiment joué le jeu. Et il y a eu des taux de grévistes très importants, 30%, 50%, jusqu'à 100% dans certains bassins miniers. Et Émile Pouget en tire la conclusion, ça c'est formidable, parce que sans charbon, il n'y a pas de guerre possible. Hein, on ne fait pas avancer un cuirassé, on ne fait pas rouler une locomotive, il n'y a pas de guerre possible sans le charbon. Et Émile Pouget conclut son étude par... Conclusion de son étude par une pirouette un petit peu, mais qui permet aussi de retourner les sarcasmes de la presse bourgeoise. Et il dit en substance, certes, cette grève générale n'a pas été celle que nous attendions. Cette grève générale n'a pas été aussi générale que nous l'espérions. Elle a été partielle. Mais le gouvernement doit bien savoir à présent qu'il existe une minorité révolutionnaire déterminée dans ce pays. Et que s'il cherchait à faire la guerre, eh bien sa mobilisation générale à lui serait encore moins générale que notre grève générale à nous. Voilà. Une façon de retourner les choses qui n'était pas malhabile, disons, pour continuer à... Enfin, pour maintenir un petit peu l'allant des militants de la CGT. Maintenant, je vais passer à la dernière étape, qui est celle de juillet 1914. Juillet 1914, sans rentrer dans les détails... Vous savez qu'il n'y a pas eu de grève générale, il n'y a pas eu de soulèvement populaire contre la guerre. Alors pourquoi ? Il y a des explications externes évidemment à cela. D'une part, il y a la façon même dont la crise s'est déroulée. Hein, la crise de juillet 14 était extrêmement rapide puisque ça se joue en 10 jours. Ça se joue en 10 jours, c'est beaucoup plus rapide qu'à l'automne 1912 ou à l'été 1911. D'autre part, c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France, et ça aussi, ça bouleverse le schéma. La guerre ne vient pas d'une rivalité coloniale au Maroc, mais elle vient des Balkans. Ce n'est pas la France qui déclare la guerre, c'est l'Allemagne. Bon, tout ça pèse évidemment dans les paramètres, hein, pour comprendre la réaction de la population française dans son ensemble. Et puis le gouvernement français, par ailleurs, est assez habile dans sa façon de gérer la crise. Le gouvernement français, à l'époque, c'est un gouvernement de gauche. Enfin, de gauche, on se comprend, hein, de gauche au sens du PS actuellement est de gauche, hein, c'est-à-dire gouvernement radical qui est dirigé par René Viviani. René Viviani, c'est l'ancien bras droit de Jaurès. Il a abandonné le socialisme pour faire une carrière ministérielle. Mais les liens d'amitié ont perduré avec Jaurès. Et on peut considérer que dans une bonne mesure, Viviani a instrumentalisé Jaurès et le Parti Socialiste en 1914 et que Jaurès est devenu un peu le bras droit de Viviani dans le cadre de la crise. Hein. Viviani va, alors que Viviani par exemple ne fait rien, reste passif hein, dans la crise, alors qu'il devrait essayer de freiner son allié russe en essayant de convaincre les Russes de ne pas déclarer la guerre à l'Autriche, et bien en fait il ne fait rien. Son seul souci est de maintenir l'ordre intérieur. Pour maintenir l'ordre intérieur, pour préparer la France au pire, quoi. Pour maintenir l'ordre intérieur, il fait quoi ? Il adopte deux tactiques. Il y a la carotte et le bâton. Vis-à-vis du Parti Socialiste, il distille des fausses informations, donc il intoxique. Donc il répète à Jaurès et au Parti Socialiste, mais ne vous inquiétez pas, la diplomatie étant ce qu'elle est, la crise durera encore 20 ou 30 jours, il n'y a aucune raison de s'alarmer, d'organiser des manifestations, etc. Puis ne vous inquiétez pas, de toute façon, on fait tout notre possible pour freiner les Russes. Tout ça est faux. D'autre part, vis-à-vis de la CGT, c'est la matraque. Hein, les syndicalistes organisent une grande manifestation contre la guerre le 27 juillet au soir. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Paris crie à la guerre. Bon. La police réprime avec une très grande violence cette manifestation. Et puis, deux jours plus tard, le grand meeting de la CGT, Salva Graham, sera interdit par le gouvernement. Un meeting où devait être posée la question de la grève générale. Et puis, on fait peur à la CGT également. C'est-à-dire que, toujours en utilisant ce canal du Parti Socialiste et de l'Humanité, eh ben, on distille des informations, on fait de l'intoxication. quand se réunit le premier comité confédéral de la CGT durant la crise, le 28 juillet 1914, eh bien, le comité confédéral n'a pas commencé depuis 20 minutes que le téléphone sonne. On appelle Léon Jouhaud. Léon Jouhaud va répondre. Et là, un journaliste de l'Humanité lui dit « Attention, on apprend de sources sûres, de sources gouvernementales, que demain matin, il y aura une rafle de 600 à 800 militants sur la base du Carmonet. » Léon Jouhaud revient dans la salle du comité confédéral. Ça plombe un peu l'ambiance. Ça plombe un peu l'ambiance, puisque les militants, comme je vous le dis, sont loin d'être sûrs, d'être en capacité de faire la grève générale. Hein. Donc ça plombe un peu l'ambiance et c'est de l'intoxication complète. Le lendemain, il n'y aura aucune rafle. Il y a un autre petit épisode qui est connu comme ça, c'est qu'au Conseil des ministres, qui se tient également le 28 juillet, le ministre de la guerre, Adolphe Messimy, interrogé par ses pairs sur la possibilité qu'il y ait des sabotages, des obstructions à la mobilisation, leur répond en substance, moi c'est simple, vous me donnez la guillotine, je vous garantis la victoire. Et cette information filtre aussitôt en direction de la CGT. Donc les dirigeants de la CGT savent ce qui les attend aussi si jamais ils se lancent dans des aventures de s'opposer à la guerre. Bon, toute cette pression morale, ils l'ont sur les épaules. Ça explique en bonne partie pourquoi ils renoncent à appeler la grève générale, mais ils y renoncent surtout, principalement, parce qu'ils ont la conviction qu'ils ne seront pas suivis. Pourquoi ne seront-ils pas suivis ? Vous avez vu que la grève générale de décembre 1912 avait eu un succès mitigé. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en 1914, en juillet 1914, la CGT est beaucoup plus faible qu'en décembre 1912. Elle est très affaiblie. Elle a subi une forte crise d'effectifs et une forte crise morale, une forte crise de confiance durant toute l'année qui a précédé juillet 14. Pour quelle raison ? Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je reviens même un an et demi en arrière. Je reviens à la question de la loi de 3 ans de service militaire. Nous sommes en janvier 1913. L'État français décide, pour augmenter donc l'armée de caserne de 160 000 hommes, de maintenir les appelés sous les drapeaux un an de plus. Le service militaire avait été ramené à 2 ans en 1905. Le gouvernement français décide de le refaire passer à 3 ans. Aussitôt, tout le mouvement ouvrier, PS, CGT, anarchistes, se mobilisent pour lutter contre la loi de 3 ans qui est évidemment vue comme une nouvelle loi de militarisation de la société et comme un nouveau pas dans la course aux armements et un nouveau pas vers la guerre. Et la campagne de lutte contre les 3 ans va dominer tout le premier semestre 1913. Il va y avoir ces fameux grands rassemblements au Pré-Saint-Gervais dont on a gardé quelques traces dans la mémoire. Par exemple, si vous connaissez cette photo de Jean Jaurès où il parle à une foule en plein air sous un drapeau rouge, c'est au Pré-Saint-Gervais, en mars 1913. Alors je raconte dans mon livre un petit peu comment se déroulaient ces grands raouts, parce qu'il faut bien se dire que ça rassemblait 150 000 à 200 000 personnes, à une époque où il n'y avait pas de sonorisation quand même. Et il fallait faire des discours. Donc comment faisait-il ? Eh bien à l'époque, quand on organisait ces grands rassemblements au Pré-Saint-Gervais, on fixait, pour commencer, les rendez-vous à l'ensemble des syndicats, des sections socialistes, donc des ligues de ménagères, des anarchistes. Chacun fixait ses rendez-vous, ça passait dans la presse, donc l'Humanité, ou bien le quotidien, la bataille syndicaliste. Les organisations donc se réunissaient près des métros, et puis on faisait route vers les portes de Paris, la porte du Pré-Saint-Gervais. À l'époque, Paris était encore entouré de fortifications, et donc il y avait des portes. Il y avait des portes qui étaient gardées par des dragons à cheval et par la police qui veillait à ce qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Parce que depuis la commune de Paris, il était interdit de déployer le drapeau rouge et a fortiori le drapeau noir dans l'enceinte de la capitale. Donc les militants étaient contraints de passer les portes de Paris et plier sous le regard des pandores. Et une fois qu'ils avaient franchi les portes, là, ils dépliaient leur drapeau rouge, ils se retrouvaient dans ce qu'on appelait la zone autour des fortifs. C'est une zone dite inconstructible. En fait, il y avait une espèce de bidonville dessus. Et on marchait à travers la zone jusqu'au rendez-vous qui se situait sur le terrain qu'on appelait la butte du Chapeau Rouge sur la commune du Pré-Saint-Gervais. Et là, on était accueillis, par exemple, par la fanfare de la bataille syndicaliste ou par la fanfare de la Bellevilloise qui jouait, par exemple, l'International ou Gloire au 17e, les hymnes révolutionnaires. La foule s'assemblait, et puis elle trouvait là, non pas un grand podium sonorisé comme on trouverait aujourd'hui, elle trouvait 15 tribunes. Je cite 15, mais selon les rendez-vous, ça a été des nombres différents, mais elle trouve par exemple 15 tribunes qui peuvent être montées sur des carrioles, hein, tout simplement, avec un mât. Et puis, il y a des orateurs sur chaque tribune, il y a des orateurs socialistes et syndicalistes et anarchistes, bon, et qui vont se relayer pour faire des discours à la foule. On hisse le drapeau rouge sur chacun des mâts, ça donne le signal des discours. Sauf sur une tribune, la 15e, où on hisse le drapeau noir, parce que c'est la tribune réservée à la Fédération communiste anarchiste. Et là, on fait des discours aux milliers de gens qui s'assemblent autour des tribunes. André Breton, le pape du surréalisme, a raconté bien plus tard, dans les années 40, 50, dans un article, que lui, étant jeune, étant enfant ou adolescent, il a participé à un de ces grands raouts auprès Saint-Gervais, et lui, il était allé, justement, à la tribune surmontée du drapeau noir, écouter les discours des orateurs de la Fédération communiste anarchiste. Bon, donc, ces grands rassemblements se tiennent, la campagne bat son plein, il y en aura 3 ou 4 comme ça en 1913, et cette campagne est très importante contre la loi de 3 ans, elle va avoir des répercussions dans la population. Et l'indice qu'on peut en avoir, par exemple, c'est un événement qui aujourd'hui est complètement oublié dans l'histoire de France et dans l'histoire du mouvement ouvrier et de l'antimilitarisme, quoi, et que je raconte par contre en détail dans le bouquin, c'est la vague de mutinerie de mai 1913 dans les casernes françaises. Alors quand je dis mutinerie, j'exagère un tout petit peu, c'était plutôt une vague d'agitation et de mécontentement parmi les appelés. Parce que les jeunes gens qui étaient partis à la caserne pour 2 ans, et à qui on a dit en cours de route qu'ils allaient faire du rap de 1 an, ben ça avait quand même créé un certain mécontentement. Et donc en mai 1913, vous avez une vague d'agitation qui frappe 20 ou 30 casernes françaises sur tout le territoire. Ce n'est pas des mutineries au sens où, si vous voulez, on n'a pas braqué les fusils sur des officiers, quoi. Mais ça peut prendre différentes formes d'insubordination. Alors, on conspue un peu les officiers au Front International, on fait des manifestations dans la cour de la caserne, ou alors il y a des groupes de conscrits qui sortent de la caserne et qui vont manifester en ville, on brandit la bataille syndicaliste ou l'humanité, bon, on fait du désordre, on retourne une chambrée, il y a des chambrées comme ça qui sont complètement retournées, on retourne des chambrées. Là où ça va aller plus loin, c'est à Toul. Et à Rodez, par exemple, les conscrits forcent les portes de la caserne, bousculent les officiers, et ils s'égayent dans les champs, il faut appeler la gendarmerie pour les ramener à la caserne. Voilà, ça ne va pas plus loin, mais ça témoigne en tout cas d'une vague d'insubordination à ce moment-là parmi les conscrits. Mais évidemment, c'est un énorme scandale. Un énorme scandale alors qu'on est en mai 1913, que la France est censée préparer idéologiquement la guerre et que l'armée est censée être redevenue un pilier de la nation. Donc la presse, évidemment, demande des comptes au gouvernement. Le gouvernement nomme une commission d'enquête qui est confiée à un général, le général Pau, qui fait une similaire enquête vite fait et qui en quelques jours rend une conclusion qui ne pouvait pas être différente et qui dit « Ce mouvement d'insubordination n'est pas un mouvement social de jeunes appelés innocents. Il s'agit d'un complot politique fomenté de l'extérieur. » Et le président du Conseil, Bartout, à la tribune du Sénat, déclare « Nous allons mener l'enquête et nous allons remonter jusqu'à l'organisation coupable. » L'organisation coupable, je vous le donne en mille, c'est la CGT. Et donc, le mois de juin 1913 va être marqué par la vague de répression la plus importante qu'ait connue la CGT, en 2 vagues successives, perquisition dans 88 villes, toutes les bourses du travail, les locaux syndicaux, les locaux des journaux, les domiciles des militants, les locaux anarchistes, bien sûr, également, puisqu'en fait, la vague de répression concerne, quand je dis la CGT, ça inclut toujours, en fait, les anarchistes à côté. Et donc, dans des centaines de perquisitions et les policiers raflent tout ce qu'ils peuvent comme pièce à conviction pour monter un dossier de complot contre la sûreté de l'État. Ces pièces à conviction, il s'agit essentiellement de circulaires du sou du soldat, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont confiées à un juge qui s'appelle le juge Drioux, que les militants de l'époque surnomment le juge à tout faire parce que c'est lui qui généralement est chargé d'instruire à charge les procès contre les militants révolutionnaires. au bout de quelques jours, Drillou a fait son dossier et il ordonne une rafle. Et 22 militants sont arrêtés, donc 20 dirigeants de la CGT, et notamment du bâtiment, et 2 de la FCA. Ils sont arrêtés et mis en prison et inculpés de menées anarchistes. Alors pourquoi sont-ils inculpés de menées anarchistes ? Je vais faire une toute petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu quelle est la tactique judiciaire de l'État français à ce moment-là. Quand on est inculpé pour menées anarchistes, ça veut dire qu'en fait on tombe sous le coup des lois scélérates de 1894. En 1893-94, il y avait eu une vague d'attentats anarchistes. Ravachol, Vaillant, Caserio, tout ça. À ce moment-là, dans la panique, l'Assemblée nationale avait voté 3 lois antiterroristes. Comme toute loi antiterroriste, ces lois sont essentiellement liberticides et visent à amenuiser les droits de la défense. De différentes façons, mais les deux façons qui intéressent le plus l'État et les militants de l'époque, c'est que, primo, quand vous êtes jugé sous le coup d'une loi antiterroriste de 1894, vous n'êtes pas jugé en cour d'assises, vous êtes jugé en correctionnel. Parce que quand vous êtes jugé en cour d'assises, c'est un jury populaire qui va rendre le verdict. Éventuellement, il peut être indulgent, voire vous acquitter. Quand vous êtes jugé en correctionnel, ce sont des magistrats professionnels qui vont vous condamner sans coup férir. Deuxièmement, sur requête du ministère public, la presse peut se voir interdite de reproduire les paroles et les propos de la défense et des accusés dans le box. Or, tous les militants de l'époque utilisent les procès et les tribunaux comme des tribunes politiques. Eh bien ça, ils ne peuvent même plus le faire. Ils sont juste voués à être condamnés quasiment à huis clos, en silence. Et en fait, l'État va énormément utiliser ce dispositif dans les années dont je vous parle. Ces lois de 1894, elles étaient un peu tombées en désuétude au début des années 1900. Et bien, à partir du coup d'Agadir, l'État les réactive systématiquement pour frapper les militants syndicalistes. Au moment du coup d'Agadir, le coup d'Agadir est concomitant d'une grande grève du bâtiment parisien. L'État fait arrêter 3 responsables du bâtiment parisien et les inculpe pour menées anarchistes sous le coup des lois antiterroristes. C'est la première affaire dite du sous du soldat. L'année suivante, il y aura une deuxième affaire du sous du soldat, en 1912, qui va concerner 18 militants du bâtiment parisien. Et puis en juillet 1913, il y a donc la troisième affaire du sous du soldat, avec 22 militants qui sont inculpés pour menées anarchistes. À ce moment-là, la CGT est face à une alternative, face à cette vague de répression, elle est face à une alternative. Soit elle durcit le bras de fer avec l'État, soit elle fait le dos rond. Et elle va choisir, pour la première fois, de faire le dos rond, ce qui va provoquer une crise énorme dans son sein, zizanie sur ce choix. Pourquoi ce choix ? Tout se joue, enfin pas tout, mais le drame en tout cas se noue lors de la conférence nationale de la CGT du 13 juillet 1913. À ce moment-là, conférence nationale, il y a 50-60 délégués de toute la France. Et à ce moment-là, parmi les sujets qui sont abordés, il y a la question de la répression. La gauche de la CGT va faire une proposition. La gauche de la CGT par la voix d'un militant très connu, qui est Benoît Broutchou. Benoît Broutchou, ça a été l'un des animateurs des syndicats de mineurs révolutionnaires du Pas-de-Calais. Et Benoît Broutchou met cette proposition sur la table. Il dit en substance, le gouvernement a lancé un défi à la classe ouvrière. Il faut lui répondre. Pour cela, nous devons préparer une grève générale pour le 24 septembre 1913. Pourquoi le 24 septembre ? Parce que c'est le jour théorique de libération de la classe d'appelée, qui devait être libérée au bout de 2 ans, et auquel on pouvait coller 1 an de plus. Et Broutchou dit, si le gouvernement ne libère pas les appelés au 24 septembre 1913, il y aura de nouvelles mutineries. Et s'il y a de nouvelles mutineries, il faut que les mutins rencontrent l'action de la classe ouvrière organisée en grève générale pour le soutien aux mutins et pour la défense de ces militants derrière les barreaux. Nous avons peut-être devant nous une situation pré-révolutionnaire, voire révolutionnaire. Il met cette proposition sur la table. Mais là, se heurte pour la première fois à une réaction globalement hostile de la salle. Il y a des murmures de désapprobation et des soupirs d'agacement. Et la plupart des délégués répondent en gros non, j'en ai assez, ne nous demandez pas de faire encore une fois la grève générale. Nous l'avons trop fait, sans succès, et si nous le refaisons encore, nous allons tuer nos organisations. Nous sommes trop affaiblis aujourd'hui pour pouvoir prétendre à ça. Donc, un autre militant anarchiste, Arthur Marchand, qui est beaucoup moins connu, qui est un responsable de la Fédération du Tonneau, prend la parole et remet la question sur le tapis en disant « Mais enfin, on ne peut pas rester sans rien faire, on va se ridiculiser. » Et là, Alphonse Mérem, le secrétaire des métaux, secrétaire de la Fédération des métaux, qui est en réalité la véritable tête pensante de la CGT à cette époque-là, Alphonse Mérem, sentant l'atmosphère de la conférence nationale, s'oppose avec virulence, coupe la parole d'Arthur Marchand, lui dit « Mais ce qui est ridicule, c'est de faire des propositions pareilles. Quand est-ce que vous allez cesser vos enfantillages? Quand est-ce que vous allez comprendre quelle est la valeur d'un point qu'on brandit en permanence, mais qui jamais ne frappe ?» Donc la gauche de la CGT est un peu stupéfaite par la vigueur de la réaction. C'est la première fois en fait qu'on leur tient tête de cette façon-là. Et il y a plutôt une approbation bruyante d'Alphonse Mérem dans les rangs des délégués. Après cette conférence nationale marque le début d'un divorce en fait entre la gauche de la CGT et la direction confédérale. Dans les semaines qui suivent, il y a une polémique très virulente qui va se développer. Très virulente, et en substance, les militants, les syndicalistes révolutionnaires ultra et les anarchistes ont accusé la direction confédérale de rectifier son tir, c'est-à-dire de se recentrer, de trahir la ligne syndicaliste révolutionnaire, de capituler alors que peut-être une situation révolutionnaire était en vue le 24 septembre. Et cette crise, cette polémique va être extrêmement virulente. Des mots très très durs vont être prononcés de part et d'autre. Vous allez voir une véritable crise de confiance dans la CGT, et d'ailleurs, à la faveur de cette polémique, une digue va se briser et va libérer tout un tas d'autres sujets de mécontentement qui étaient sous-jacents. Et parmi les sujets qui à ce moment-là sont débattus avec beaucoup de violence, il y a la question du fonctionnarisme syndical. Bon, à l'époque, on ne dit pas le mot bureaucratisation, on parle de fonctionnarisme syndical. On parle du péril fonctionnariste qui menace la CGT. Et à gauche de la CGT, notamment les ultras du bâtiment, du bâtiment de la Seine, ou les ultras des métaux de la Loire, attaquent avec une grande virulence en disant « Si la CGT rectifie son tir, c'est parce que ces fonctionnaires syndicaux sont là depuis trop longtemps, ils se sont encroutés, etc. etc. » Dans le livre, je détaille un peu les arguments de tout ce débat, parce que c'est assez intéressant, beaucoup de ces arguments, pour une bonne part, restent d'actualité dans le débat sur la question. Donc, c'est assez intéressant, je ne prends pas parti bien sûr, mais je déroule les arguments des uns et des autres sur cette question-là. Mais en tout cas, la polémique est vraiment extrêmement virulente. Alphonse Mérem, à cette époque-là, devient véritablement la bête noire de la gauche de la CGT. Il est vu vraiment comme le grand recentreur en chef de la CGT. Ça va aller très très loin dans la polémique et dans la zizanie. Si la majorité des délégués à la conférence nationale de 1913 ont refusé de faire la grève générale, c'était sans doute pas parce qu'ils étaient tous des fonctionnaires syndicaux encroutés. Il y a d'autres raisons plus profondes. Une raison plus profonde, c'est que effectivement, la CGT à ce moment-là est déjà très affaiblie dans ses effectifs, et notamment dans ces fédérations les plus révolutionnaires, celles qui forment normalement l'épine dorsale de la CGT, et je veux parler par exemple de la Fédération du Bâtiment. La Fédération du Bâtiment, elle a atteint son apogée en 1911, elle a mené une grande grève sur la région parisienne, qu'elle a perdue. Et depuis cette date, ses effectifs n'ont pas cessé de décliner. Mais ce qui est plus grave, c'est que ce qui l'a empêché, disons, de reprendre de l'allant, c'est que sur la période 1911-1914, les syndicats de la CGT ont une véritable difficulté à faire du syndicalisme de base. À l'époque, ils distinguaient deux choses, l'action corporative et l'action sociale. Pour eux, l'action sociale, c'était tout ce qui était antimilitarisme, antipatriotisme, et l'action corporative, c'était salaire, temps de travail, ces choses-là. Et en fait, entre 1911 et 1914, ils ont beaucoup de mal, notamment les syndicats les plus révolutionnaires, à faire de l'action corporative. Parce qu'ils sont tellement accaparés par la lutte contre la guerre, contre la militarisation, contre les mesures militaristes qui tombent régulièrement, il y a tout le temps une nouvelle réforme qu'il faut combattre, par la défense de leurs militants qui sont placés derrière les barreaux. Ils sont tellement en permanence accaparés par ça qu'ils ont une véritable difficulté à mener les campagnes corporatives. Par exemple, la CGT en 1911 a fixé une revendication qui doit être structurante, qui est la semaine anglaise. La semaine anglaise, en gros, c'est 44 heures de travail par semaine avec libération du samedi. Ce qui est une mesure qui est vue comme par ailleurs plus facilement adaptable à certaines professions et aux femmes. Donc la CGT au niveau confédéral a adopté cette stratégie revendicative. Et bien en fait, en réalité, de 1911 à 14, elle va être à peu près incapable de mener réellement campagne parce que ces syndicats les plus volontaristes, les plus déterminés, vont être en permanence accaparés par la lutte contre la guerre. Donc perdant des effectifs, ayant beaucoup de mal à en regagner, et dans certains cas, commençant à théoriser que c'est pas grave si on perd des effectifs, on fait pas d'omelette sans casser deux. Il y a beaucoup de militants qui sont pénétrés par la théorie des minorités agissantes, et c'est pas grave si on n'est pas nombreux, on sera plus fort. En parallèle, les fédérations réformistes, qui elles ne perdent pas leur temps à faire de l'antimilitarisme ou de l'antipatriotisme, qui n'encourent jamais la répression, qui font leur petit travail corporatif habituel, elles maintiennent leurs effectifs. Donc, en juillet 1913, il y a aussi un débat qu'on retrouve hein, dans la polémique de la seconde moitié de la 1913, il y a aussi un débat qui est la question effectivement de la stratégie de la CGT. Est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu aux fondamentaux et faire davantage d'actions corporatives et moins d'actions sociales? La gauche de la CGT accuse la direction de vouloir abandonner l'action sociale. La direction confédérale dit mais non, c'est pas ça la question. Bon, il y a toute une polémique autour de ça. Voilà. Tout ça pour dire que tout ça pour expliquer comment, un an plus tard, en juillet 1914, alors que cette crise au sein de la CGT est très très loin d'être résorbée, la CGT se retrouve, disons, très affaiblie, moralement, et dans ses effectifs. Et disons que elle a été sans doute cueillie au plus mauvais moment pour elle, par la crise diplomatique de l'Europe de juillet 1914. Effectivement, la CGT s'est trouvée dans l'incapacité d'y faire face, contrairement aux fois précédentes. Je vais vous tenir encore 10 minutes pour vous parler d'un petit truc connexe. Enfin, pas connexe, en fait, c'est le fil rouge de mon livre. C'est quand même les anarchistes. Les anarchistes, dans tout cela, ils fondent leur première organisation, donc en 1910, qui s'appelle la Fédération communiste anarchiste. C'est une petite organisation au départ, il n'y a qu'une dizaine de militants. Et puis, en fait, assez rapidement, il y a des groupes qui adhèrent en province. Elle prend, au bout d'un an, elle a déjà une dimension nationale. Et puis, petit à petit, elle va se développer. Je pense qu'elle doit atteindre à peu près peut-être 1000 d'adhérents au plus fort à l'été 1913. Cette petite organisation bienveillante, elle a sa propre stratégie d'opposition à la guerre. Une stratégie qui est complètement imbriquée dans celle de la CGT. Les militants de la FCA qui se vivent comme la fraction la plus déterminée du prolétariat organisé, la fraction qui organisera l'insurrection révolutionnaire, eh bien, ils pensent de la façon suivante. Si la guerre menace ou si la guerre éclate, il y aura la grève générale et il y aura le soulèvement populaire. Et à ce moment-là, nous irons encore plus loin. Nous, carrément, nous allons saboter la mobilisation. Saboter la mobilisation, donc c'est un plan qu'ils adoptent en juin 1911, alors que la crise des gaziers approche. Et saboter la mobilisation, ça veut dire concrètement saboter les rails, les voies de chemin de fer qui partent de la gare de l'Est, de la gare de Pantin, qui sont celles qui mènent vers le Rhin. C'est saboter les tunnels, les viaducs, les fils télégraphiques, et puis dans la confusion, le désordre créé, neutraliser les pouvoirs publics, et puis bah, globalement faire la révolution. Hein. La déclaration de guerre est vue comme le moment où on peut basculer dans l'insurrection, dans la révolution. Ça peut paraître un peu irréaliste, hein, ce plan de la part d'une petite organisation qui, à ce moment-là, rassemble quelques centaines de militants. Mais ça s'inscrit tout à fait dans son époque, en réalité. Cette histoire de sabotage, le sabotage de la mobilisation, ce mot d'ordre, il est tout à fait dans la continuité d'une pratique ouvrière très importante dans les années 1909-1910, qui est celui du sabotage ouvrier en soutien aux grèves. En 1909, il y a la grande grève des BTT, et en 1910, la grande grève des cheminots. Je raconte ces deux grèves dans le bouquin, et je raconte que, à ce moment-là, durant ces deux grèves, il y a eu deux grandes vagues de sabotage, des milliers d'actes de sabotage sur tout le territoire, mais principalement dans les régions où le mouvement anarchiste était fort, pour soutenir les grévistes. Donc la nuit, vous aviez des équipes qui sortaient, qui grimpaient au poteau et qui sectionnaient les fils télégraphiques pour soutenir la grève des PTT et par la suite la grève des cheminots. Et ces pratiques de sabotage se poursuivent bien après la fin de la grève des grèves, parce que jusqu'en 1911, il y avait encore des vagues de sabotage. Il s'agissait cette fois de faire pression sur le gouvernement pour qu'il réintègre les grévistes qui avaient été révoqués. Donc cette histoire du sabotage ouvrier, de sectionner les fils télégraphiques, etc., c'était quelque chose d'être parfaitement intégré dans la pratique militante de l'époque, et les militants de la FCA avaient fait ça couramment quand, en 1911, ils décident d'adopter cette stratégie de sabotage de la mobilisation. Ce qui peut paraître, par contre, assez incroyable, c'est que cette stratégie de sabotage de la mobilisation, ils ne la tiennent pas secrète. Au contraire, ils en font état publiquement et tambour battant. C'est-à-dire qu'ils l'impriment dans leurs journaux, ils l'impriment sur leurs affiches, il y a des affiches de la FCA comme ça, vous les trouverez sur le blog du bouquin, des affiches de la FCA, si la guerre éclate, ce que nous ferons, deux points, sabotage, la mobilisation, etc. Et même en meeting, il y a un grand meeting, en novembre 1912, au plus fort de la crise des Balkans, alors que la guerre menace, où devant 1200 personnes, un grand meeting qu'ils organisent aux sociétés savantes à Paris, devant 1200 personnes, il y a un des orateurs de la FCA, Édouard Boudot, qui explique au public comment on sabote un canon 75, comment on neutralise une locomotive, comment on sectionne des fils. Donc évidemment, si on veut attirer sur soi la répression, il n'y a quand même pas de meilleur moyen. Et effectivement, la FCA va subir une répression permanente en 1912-1913, une répression constante qui va durement l'éprouver. À un moment donné, j'ai fait un petit calcul dans le bouquin sur la durée de vie moyenne de la secrétaire de la FCA. Cette durée de vie est à peu près en moyenne de 4 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous êtes élu secrétaire et le moment où vous vous retrouvez en tôle ou en exil à l'étranger, il se passe en moyenne 4 mois. L'un des plus célèbres secrétaires de la FCA à cette époque, c'est Louis Lecoing. Bah, lui, effectivement, il a été secrétaire 4 mois entre deux périodes de prison. Et pour le gérant du Libertaire, c'est-à-dire la personne qui est responsable juridiquement du contenu du journal, c'est à peu près la même durée, 3-4 mois, avant de se retrouver traîné en justice. Ce qui est assez incroyable, c'est que malgré cette répression permanente, la FCA va toujours réussir à trouver en son sein, à puiser en son sein la force de continuer. Et il y aura toujours un militant pour se dévouer, pour prendre la place de celui qui vient de tomber. Ça, c'est assez incroyable. Je pense que ça en dit long sur cette époque et sur une certaine forme de fanatisme où on peut l'appeler fanatisme, on peut l'appeler dévouement, on peut l'appeler inconscience, témérité, tout ce qu'on veut. Mais ça en dit beaucoup sur ce qui se passait dans la tête des militants FCA à cette époque, qui étaient pénétrés vraiment de l'idée que la révolution était imminente. Quoi. Voilà. À partir de 1913, la FCA va mettre un petit peu d'eau dans son vin. Sur cette question du sabotage de mobilisation, elle ne va pas changer de ligne. Elle va pas changer de ligne, mais au lieu d'en faire état publiquement, elle va faire la propagande clandestinement de cette idée-là. Et donc, pour ça, elle met sur pied une combine. En 1913, elle réalise, elle confectionne une petite brochure, un manuel, en fait, insurrectionnel, qui s'appelle « En cas de guerre », qui est titré « En cas de guerre », que la police surnomme la brochure rouge, de la couleur de la couverture, et cette brochure rouge va être distribuée clandestinement. Elle est assez intéressante à étudier parce que, là encore une fois, elle est très révélatrice de l'état d'esprit des militants révolutionnaires de l'époque. Quand vous lisez cette brochure rouge, vous y trouvez tout un tas de choses. C'est vrai, il y a à la fois des conseils politiques, alors ça part toujours de l'idée que de la guerre va naître la révolution, et il y a par exemple des conseils politiques du style la première tâche des révolutionnaires, c'est en cas de révolution, d'empêcher la constitution d'un gouvernement provisoire, parce que ce gouvernement provisoire va fatalement chercher à rétablir l'ordre. Bon, des conseils politiques de ce type-là, sur ce qu'il faut faire et pas faire. Il y a des tactiques, enfin des techniques insurrectionnelles, Par exemple, on explique que la technique barricadière est dépassée, enfin les barricades c'est dépassé, on n'est plus sous la Commune de Paris, avec l'armement moderne, faut plus faire de barricades, mais on donne d'autres techniques. Alors par exemple, on explique qu'il faut dépaver les rues en damier de façon à stopper les charges de cavalerie, bon, c'est des choses voilà, comme ça, et puis également des recettes d'explosifs, de la façon de saboter un tunnel en s'attaquant à la clé de voûte et tout, bon, il y a des choses comme ça. Donc c'est un ouvrage... petit fascicule, hein, assez composite, et finalement qui forme une sorte de synthèse, une sorte de manuel insurrectionnel adapté à l'ère du syndicalisme révolutionnaire, hein, et qui offre une sorte de synthèse des leçons qu'on tire de la Commune de Paris, des leçons qu'on tire de la Révolution russe de 1905, du sabotage ouvrier des années 1909-1910, et puis d'une certaine forme de blanquisme, hein, également qu'on retrouve dans ce fascicule. Il a vraisemblablement été rédigé par le groupe FCA encristé à la prison de la Santé, hein, dont la police pensait qu'il était, c'est-à-dire la direction occulte de la FCA. Effectivement, il y avait un certain nombre de militants de valeur qui étaient en prison, et la police jugeait qu'il fallait les disperser dans différentes prisons parce que vraisemblablement c'était eux le cerveau de l'organisation. C'est pas impossible. Et puis donc la FCA va réussir à imprimer cette brochure clandestinement, alors qu'elle était quadrillée, enfin, quand même, il y avait des informateurs policiers au sein de la FCA, parce que on sait tout de ce qui se passait dans cette organisation. Et bien malgré ces informateurs, ils vont réussir à imprimer clandestinement la brochure, sans que la police le sache, dans une petite imprimerie clandestine qu'ils avaient à quelques dizaines de mètres du siège de l'organisation, et ils vont réussir par une combine assez astucieuse à la distribuer à des dizaines de groupes anarchistes et de syndicats révolutionnaires de la CGT. Ils avaient en fait deux militants qui étaient salariés dans une entreprise éminemment respectable, puisqu'il s'agissait d'une sorte d'imprimerie qui imprimait des tableaux d'honneur pour ouvriers méritants, trucs comme ça. Et donc, aux frais du patron, dans des colis parfaitement indétectables, ils ont envoyé des centaines d'exemplaires de cette brochure en tout cas. La police mettra plusieurs mois à comprendre la mèche et à découvrir le poteau rose. Donc voilà, la FCA mène toute cette propagande. Donc je raconte beaucoup de choses, hein, sur cette petite organisation. J'étudie tout un tas de choses sur ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, sa sociologie, tout ça. Mais en juillet 1914, bah, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de grève générale, il n'y a pas de soulèvement populaire, et la stratégie de sabotage de la mobilisation tombe d'elle-même. Elle n'est pas appliquée. Ce qui se passe, c'est que les militants anarchistes pensent que le carnet va être appliqué. En fait, il ne va pas l'être. Le gouvernement va être habile. Voyant qu'il n'y a pas de grève générale, il va éviter de faire des martyrs en arrêtant des gens. Et le carnet n'est pas appliqué. Sauf dans le Pas-de-Calais, où tous les anarchistes vont être raflés. Mais dans certaines villes, par précaution, certains groupes anarchistes passent à la clandestinité en juillet 1914. Par exemple à Brest ou à Saint-Étienne, ils se cachent. Ceux de Saint-Étienne se cachent dans les bois avec des flingues. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques jours, quand ils voient qu'il n'y a pas de grève générale, il n'y a pas de soulèvement populaire, et qu'en fait, ils ne sont même pas recherchés par la police, bien finalement, ils finissent par rentrer à l'atelier complètement démoralisés. Et pour beaucoup, ils répondent à l'appel et ils partent au régiment. Ils répondent à l'appel. D'autres vont passer à l'étranger, désertés, soit en Espagne, soit en Suisse, soit en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, de façon paradoxale, ne va jamais livrer à la France les déserteurs français qui sont réfugiés sur son sol. Et puis, il y a également un certain nombre de militants. Ça, c'est une réalité de l'époque. Hein, c'est que dans la classe ouvrière de l'époque, il y a beaucoup de gens qui sont boiteux, bigleux, tuberculeux, enfin, ils ne sont pas très en forme, et qui sont exemptés, hein, du service militaire. Ces gens-là vont former, par la suite, mais ça c'est l'épilogue du bouquin, ces gens-là vont former en fait le noyau de la résistance pacifiste à la guerre dans les années suivantes. En fait, hein. C'est eux qui vont constituer les Amis du Libertaire, qui va être un groupe anarchiste un peu clando à Paris pendant la guerre, qui va maintenir la flamme, quoi, qui va maintenir les liens, qui va tenter d'organiser des actions contre la guerre. Et puis, c'est eux qui vont fournir également souvent l'armature de la minorité syndicaliste de la CGT opposée à la guerre, qui fera des choses assez intéressantes pendant la Grande Guerre, mais qui sont hors du champ d'étude de mon livre. Voilà, je m'arrête là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé.